Soirée à tous.
Bonsoir. Idriss Falt est la voix de l'Amérique en direct depuis le studio 7 de la voix de l'Amérique à Washington. Donc, une édition spéciale sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous allons d'abord prendre une première réaction d'un Américain sénégalais, originaire du Sénégal, qui s'appelle Babacar Diouf. À mes côtés, donc, Timothée Donangmaï, nous allons faire le tour des États-Unis et pour essayer, parce que ça a pris tout le monde de surprise jusqu'à hier, c'était une bagarre serrée et que donc là, Timothée, je voulais savoir.
Oui, Idriss, c'est effectivement, on ne s'attendait pas à un dénouement aussi rapide dans cette élection américaine après la journée de vendredi et compte tenu de tous les retards dans le décompte des voix dans les différents états clés, on se disait que le week-end allait passer et que c'est lundi qu'on allait reprendre la couverture intensive de ces élections. Eh bien, ce samedi, les choses se sont de noué avec l'annonce, par tout au moins par les médias américains, de la victoire de Joe Biden dans cette présidentielle américaine.
Et nous, ce qui a fait basculer les choses, c'est la victoire de Joe Biden dans l'État de Pennsylvanie, qui lui a permis de rafler 20 grands électeurs. Et la bataille a été âpre, très serrée. C'est après dépouillement des votes par correspondance qu'il a pu prendre le devant. Et donc a fait basculer l'issue de l'élection. Et nous avons donc le professeur Nyaka Lagoke de l'université Lincoln en Pennsylvanie qui explique ce qui s'est passé.
Oh, bon, comment là c'est un fils de la région, de la Ouest, donc pas loin. Et il a certainement eu des attaches depuis un bon moment. Et puis, deuxièmement, les populations noires, comme on le dit, des gens comme le LeBron James ont lancé une campagne, comme en anglais qu'on dit « more than a vote ». C'est-à-dire que c'était un moment assez critique là, pour les Noirs, à la lumière des brutalités policières, la mort de George Floyd, de Breonna Taylor et bien d'autres choses. Et puis le président américain Donald Trump a mal géré toute cette situation. Donc les Noirs, et c'est ça qui est important, quand on lit tout ce qui se passe, les Noirs sont sortis massivement et ont contribué à faire changer la balance. Et donc je pense que c'est un élément à prendre en compte.
Maintenant, Joe Biden, quels sont les défis auxquels il va faire face?
D'abord, le premier défi, c'est de pouvoir réconcilier États-Unis. Ça va être un défi très très difficile à réaliser. Obama a pensé qu'il allait le faire, il n'a pas pu le faire parce qu'il y a deux Amériques, au minimum, il y a plusieurs catégories d'Amériques, mais il y a deux Amériques autour de la question de l'identité. Il y a ceux qui estiment que l'Amérique doit être dans les mains par les suprémacistes, les nationalistes blancs, qui sont qu'on appelle les suprémacistes blancs. Et Donald Trump semble être celui qui semblait leur intérêt. Donc il y a ces gens-là, et puis il y a d'autres qui estiment que l'Amérique doit être multiraciale, multidimensionnelle, multiculturelle, et que Joe Biden est parti sur une plateforme qui est la bataille pour l'âme de la nation américaine, diversité raciale, culturelle, et puis multidimensionnelle. Et donc, c'est vraiment cette vision qu'il va essayer de promouvoir, mais on peut déjà anticiper que les Républicains feront tout pour le faire échouer, comme il était pour Obama. Peut-être qu'il aurait un peu plus de chance, comme il est blanc, et que sa vice-présidente, même si elle est perçue comme noire, et qu'elle a des origines en Asie, mais son mari est blanc, peut-être qu'ils vont trouver une façon pour s'entendre, mais en tout cas, ce sera le plus grand défi auquel il aura affaire.
Mais
le deuxième, c'est par rapport à la gestion du COVID-19, et que Donald Trump a mal géré. Donc, quelles sont les mesures qu'il va prendre maintenant qu'on sait qu'il y a déjà plus de 200 000 morts aux États-Unis? Donc, on va voir si ce sera le deuxième défi assez pressant auquel il devra faire face. Et naturellement, le troisième, l'économie, et qui est lié naturellement au deuxième, qui est la question de la pandémie.
Et aussi, il y a une aile radicale de gauche à l'intérieur du Parti démocrate.
Oui, bien sûr, qui ont cette aile radicale, ou encore tous ces activistes-là, qui estiment que l'Amérique doit faire un peu plus que les litanies en faveur de la diversité multiraciale. Et donc, certainement, oui, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Et donc, ça ne va pas du tout être facile. Tout à l'heure, j'ai vu que le président Obama a dit que Biden aura affaire à des défis auxquels qui seront vraiment des défis inimaginables, quoi. Donc, je pense que c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte.
Donc, Nyaka Lagoke de l'Université Lincoln en Pennsylvanie, édition spéciale sur VOA Afrique, sur la présidentielle américaine. On me signale de l'autre côté de la vitre l'entrée de mon ancien chef de service, Claude Porcella, qui connaît bien la politique américaine. Merci Claude de vous joindre à nous. En fait, comment expliquez-vous la victoire de Biden en Pennsylvanie?
Bonsoir Idriss. C'est simplement une question de calcul, d'arithmétique. Certains ont pu s'étonner que les grandes chaînes de télévision aient finalement annoncé la victoire de Biden alors que les dépouillements n'étaient pas terminés dans 4 ou 5 États. Mais à partir du moment où Biden a réussi à obtenir un tel nombre de voix, c'est-à-dire nous parlons de 30 000 voix supplémentaires, 34 000 de plus à leur augmenter, l'écart était tel qu'il était impossible au président Trump de le rattraper et par conséquent, grâce à ses 20 et les grands électeurs de Pennsylvanie, Biden a pu franchir la ligne d'arrivée.
Donald Trump avait fait le même calcul, non? Et c'est même, il avait remporté la Pennsylvanie en 2016 face à Hillary Clinton. Qu'est-ce qui n'a pas marché cette année?
Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé cette année, c'est que Trump a perdu dans les États qui lui avaient permis d'être élu, c'est-à-dire le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Il avait réussi à percer le fameux mur bleu des démocrates. Et cette année, c'est l'inverse. Non seulement Joe Biden a réussi à récupérer la base naturelle de ces États industriels, et en plus, il a lui réussi à faire une sorte de brèche dans le mur rouge en emportant des États tels que l'Arizona ou encore l'Arizona, le Nevada et surtout la Géorgie, même si les résultats sont encore très serrés dans ces derniers États du Sud.
Apparemment, le camp Trump va déporter plainte lundi. Est-ce que ça peut renverser le cours des choses ou bien?
Eh bien, écoutez, de l'avis de nombre de juristes, non. Il a déjà tenté un certain nombre de recours. Il a très peu de fois réussi à obtenir ce qu'il voulait en matière de cessation du dépouillement de certains bulletins. Mais la Cour suprême, en général, à chaque fois qu'elle s'est prononcée, a plutôt donné aux États qui finalement ont le dernier mot, l'autorisation de faire comme cela leur convenait. Donc, pour répondre à votre question, très peu d'experts juridiques pensent que Donald Trump va pouvoir remporter et faire, par exemple, obtenir un recomptage de tous les bulletins dans une majorité d'États. Rappelons qu'en 2000, il était question que de recompter dans un seul État, la Floride, et plus particulièrement dans un comté. Donc, c'était beaucoup plus faisable. Mais Donald Trump, évidemment...
C'est un bagarreur quand même, hein?
Oui, absolument, c'est un battant. Il avait déjà dit mercredi, je n'aime pas perdre, et bien, il a perdu, et c'est un mauvais perdant. Il refuse donc jusqu'à présent de concéder sa défaite et il continue la bataille sur le terrain juridique sans grand espoir de changer les choses. Mais cela fait plaisir à sa base. Il va, vous savez, il ne faut pas écarter Donald Trump de l'avenir politique aux États-Unis. Hein. Il veut maintenir sa base.
Et il a une base très solide et très fidèle.
Très fidèle et qui, même à la surprise générale, a augmenté. Puisque si on regarde simplement au vote populaire, il a tout de même obtenu 69 millions de voix, c'est-à-dire plus qu'en 2016. Et Joe Biden, hier soir, se plaisait à souligner qu'il avait été avec 74 millions de voix, avec sa colistière, le ticket qui a obtenu le plus de voix dans l'histoire américaine. N'empêche qu'on s'attendait à ce qu'il fasse mieux. Et bon, c'est vrai, ne gâchons pas la victoire de Joe Biden, mais les démocrates ont tout de même encaissé quelques revers. Vous vous souvenez qu'ils espéraient enlever le Sénat, par exemple. Ça semble très difficile. Et finalement, on ne connaîtra pas la composition finale du Sénat avant janvier. Ouais. Et la Chambre, oui, d'accord, les démocrates conservent la majorité, mais une majorité affaiblie, loin de renforcer, comme ils espéraient, le nombre de leurs représentants. Ils en ont perdu quelques-uns, alors que les républicains, à l'inverse, eux, en ont gagné quelques-uns.
Merci Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Édition spéciale élection américaine sur VOA Afrique. Il y a des milliers de gens qui sont en train de célébrer à Washington. Non loin de la Maison-Blanche, nous allons sur place et en direct retrouver notre envoyé spécial Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir et quelle est l'atmosphère autour de vous?
Alors, bonsoir Idriss, j'espère bien que vous m'entendez. J'ai porté mon masque comme la plupart de ceux qui sont venus ici aux alentours de la Maison-Blanche pour manifester leur joie. Vous l'avez constaté, les barbelés et donc les barricades de sécurité implantées depuis... avant les élections, sont toujours là, la police aussi. Il faut s'approcher de la Maison-Blanche pour comprendre qu'on ne peut pas y accéder en voiture, il faut marcher. Et donc, depuis peut-être autour de 500 mètres, 1 km environ par là, aucune voiture ne peut circuler dans les environs. Nous avons marché jusqu'ici. Et j'ai avec moi quelqu'un aussi qui est venu ici, autour de la Maison-Blanche, pour exprimer sa joie de voir Joe Biden remporter ces élections, comme tous ceux qui convergent vers là. Eh bien, j'ai avec moi Lassina Ivo. Bonsoir, Lassina.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir?
Eh bien, c'est une joie extrêmement immense qui m'amène un peu à cet événement. J'ai effectivement voté pour Biden et je voulais le voir remporter ces élections parce que depuis longtemps, nous le souhaitons. Et en ce moment, c'est une joie explosive que je ne dois pas rater. Je ne dois pas me laisser compter cet événement, c'est ça? D'accord, je suis là pour cette situation.
Alors, vous le voyez autour de nous, les gens laissent exploser leur joie, mais avec quand même de la retenue, presque tous ont porté des masques, tous sur des vélos ou bien à pied. Alors, cette joie contenue, dites-nous, Biden qui remporte ces élections, qu'est-ce que vous, ça va changer?
Effectivement, tout le monde porte son masque. Moi aussi, j'ai porté le mien. Et j'ai constaté que vraiment, les gens respectent les mesures barrières de la COVID, ce qui est déjà important. Et l'élection de Joe Biden, ça va changer beaucoup de choses. Tout ce que vous voyez, je repars à l'origine. La plupart des gens, par exemple, la COVID a fait que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, ils sont à la maison, ils assistent. Ça, c'est un élément très important. Et toutes les mesures financières ou bien autres compensatoires qui doivent quand même aider la population à survivre, ça part, qu'on appelle au niveau du Congrès, ça marche, et quand ça arrive au Sénat, ça échoue par la faute des républicains et donc en leur tête, Donald Trump. Donc, tout ce que vous voyez, ils retrouvent un peu leur histoire qui est un peu muselée par contre le système de Donald Trump et par conséquent, ils sont contents pour être là. Il y a plusieurs choses. Je vois ce qui est le commun de tous les jours en ce moment.
Alors Idriss, vous l'avez entendu, eh bien, c'est la plupart de ceux qui... Par contre, disons, ce qui est un peu rare, c'est de voir des pro-Trump, sans doute, manifester peut-être leur mécontentement. On a vu par moments des pro-Trump qui sont peut-être un peu déçus, mais restent confiants avec ces poursuites judiciaires, ces procès intentés, ça, là, par Donald Trump et son équipe de campagne, pour espérer faire bouger un peu les lignes. Mais ce qu'on peut dire pour le moment, les partisans de Biden qui se convergent toujours autour de la Maison-Blanche sont toujours en train de venir, eh bien, c'est une joie qui explose. Et pour eux, la plupart de ceux à qui, en tout cas, on a adressé la parole, nous ont dit, eh bien, c'est vrai qu'il y a des procès en cours, mais nous pensons que c'est plié. Peu importe l'issue de ces procès-là, eh bien, nous avons gagné et nous tenons à manifester notre joie. C'est pourquoi nous retrouvons ici autour de la Maison-Blanche. Et donc, c'est, je vais dire, la quintessence du message qu'on a reçu jusqu'ici.
Merci, Yacouba Ouédraogo, notre émissaire spécial, qui nous parlait depuis la place autour de la Maison-Blanche dans cette édition spéciale élection américaine sur VOA Afrique. Et autre réaction, un Américain d'origine sénégalaise qui avait voté Biden, et on écoute la réaction de Babacar Diouf.
Oui, en fait, l'élection de Biden nous a apporté beaucoup de joie. Je pense que là, je ne peux même pas décrire vraiment le sentiment que j'ai. En fait, je dirais aussi un sentiment de soulagement, parce que après avoir vécu 4 ans sous le régime de Trump, je m'imaginais comment on va vivre encore 4 autres années. Donc là, je n'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens, mais un sentiment de soulagement et de gaieté.
Et qu'est-ce que vous attendez de Joe Biden si jamais il est élu?
En fait, ce que j'attends de Biden, c'est qu'il unisse ce pays. Parce que là, la première leçon qu'il faut tirer de ces élections, c'est que le pays est divisé. Parce que Biden a en ce moment 74 millions de votants, Trump en a eu 70 millions. Ça veut dire vraiment le pays est divisé en deux. Et si vous regardez les messages durant la campagne, le message de Trump comparé au message de Biden, c'est tout à fait contraire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la mission de Biden, ce sera comment réunifier ce pays pour se mettre au travail. Et aussi, il y aura la pandémie qui ne sera pas facile à gérer. Bon, il y aura des améliorations, c'est sûr, parce que Biden prendra des mesures. Mais le problème, c'est qu'avec cette expression de liberté, comme on dit, parce que faire porter des masques aux gens, c'est déjà un problème. Et je suis sûr qu'il y aura toujours des récalcitrants. Donc, mais j'ai bon espoir qu'il arrivera au moins à unifier au moins les membres du Congrès pour qu'ils puissent travailler et puis relever ce pays. J'ai espoir pour ça, mais je pense que les grands défis, ce sera la pandémie et comment unifier ce pays.
Mais le Congrès, apparemment, les Républicains ont conservé leur majorité au Sénat, non?
Oui, il y a espoir, mais c'est très maigre, parce qu'en fait, il y aura Renault en Géorgie, où il y aura encore 2 sièges. Mais je pense que les Républicains vont encore diriger le Sénat. Mais vu l'expérience de Biden, parce que quand il était vice-président, quand même il a beaucoup travaillé avec les Républicains, particulièrement au niveau du budget. Donc, vu aussi sa carrière politique et son côté humain, et puis il est respecté des deux côtés. Donc j'ai bon espoir qu'il pourra travailler avec eux. Bon, ce ne sera pas facile parce qu'il y a toujours les intérêts politiques des deux côtés. Et aussi, il aura à faire face aux progressistes, le groupe de la congresswoman de New York, par exemple, les Bernie Sanders. Bon. Donc, il aura du pain sur la planche.
La gauche radicale du Parti démocrate.
Exactement. Mais je pense que lui, comme il n'a pas, je veux dire, il n'a pas d'avenir politique. Parce que, vu son âge, je vois mal comment il va briguer un autre mandat. Et je pense qu'un président, quand il n'a pas d'avenir politique, ça veut dire qu'il ne pense pas à briguer un autre mandat. Il est plus libre. Il peut prendre des décisions qui seront impopulaires peut-être chez certains démocrates, mais je ne vois pas comment les gens pourront l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et donc, pour ça, j'ai grand espoir. Peut-être ce sera après Biden, comment les démocrates feront pour se être plus unis, ça c'est un autre débat. Mais je pense que Biden aura les mains libres pour mener la politique qu'il voudra.
Babacar Diouf, un Américain d'origine sénégalaise qui habite ici dans le Maryland. Édition spéciale, élections aux États-Unis. Nous allons en direct à New York. Notre envoyé spécial qui était hier à Wilmington, la ville de Biden, est revenu ce matin avant proclamation des résultats à New York et tâter un peu le pouls, l'atmosphère qui se passe à New York. Nous avons en direct Dili Diko Dili. Alors, comment ça se passe à New York?
Alors, Idriss, à New York, les partisans de Joe Biden sont finalement sortis dans les rues pour célébrer après plusieurs jours d'attente, 4 jours d'attente. Et donc, selon les projections de la VOA, il est anticipé que Joe Biden devienne le nouveau président. Mais ici, à New York, les gens n'ont pas attendu. Et donc, comme dans plusieurs grandes villes américaines, les supporters chantent et dansent au coin des rues. Donc, je reviens de tout juste de Wilmington, comme vous l'avez dit, le QG de Joe Biden. Et lorsque j'ai traversé New York, il y a juste quelques minutes, donc plus précisément Manhattan et Brooklyn, j'ai pu voir plusieurs groupes de personnes qui étaient en liesse à plusieurs endroits de la ville et à plusieurs coins de rue. Donc des foules qui commencent à se former. Il y a aussi beaucoup d'agitation et de joie. Et par moments, on entend les klaxons et les hélicos dans le ciel qui survolent la ville. Et donc j'ai vu aussi beaucoup de personnes qui tenaient des pancartes estampillé Biden-Harris et voilà, à Times Square et aux alentours du centre Barclays qui se trouve à Brooklyn. La sécurité a été renforcée, j'ai vu beaucoup de policiers dans les rues, donc les chants des partisans et voilà, on s'attend à davantage de célébrations à l'approche de la nuit, car il est prévu que Biden prenne la parole.
Ce soir à 20h, merci Dili Diko que nous avions en direct depuis New York.
Merci.
VOA Afrique, édition spéciale, élection américaine. Nous avons avec nous notre cher frère Jean-Claude Zamba. Jean-Claude, alors, ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a des surprises après une si longue attente, votre réaction?
Je dirais que il y a eu des surprises. Ce serait plutôt de la façon dont le peuple américain a encore montré que nous vivons dans une démocratie responsable. Je pense que beaucoup de personnes se demandaient où allait l'Amérique et de quelque part n'avaient pas vraiment compris la force des institutions américaines. Comme je le disais à certaines personnes il y a 4 ans avant que M. Trump ne prenne le pouvoir, que M. Trump viendra en fait tester la force des institutions américaines. Et nous voyons ici que ce sont les institutions en fait qui ont prévalu et le peuple pour qui nous disons nous le peuple, donc la population a une fois de plus encore montré à la face du monde que l'Amérique est une véritable démocratie.
Merci Jean-Claude donc pour votre réaction et nous allons prendre notre confrère Bagassi Koura. Bagassi, alors quelles leçons peut-on tirer de ce qui s'est passé depuis le 3 novembre? L'attente a été longue.
Oui, l'attente a été longue, c'est ce qui explique certainement cette mobilisation ici au centre-ville de Washington où des milliers de personnes sont descendues. Là, dans le centre-ville, beaucoup sont à pied ou à vélo, mais là où les véhicules sont encore autorisés à circuler, vous avez, Idriss, un grand vacarme de klaxons. Et ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est que nous sommes allés jusqu'au pied du Washington Monument, qui est donc au cœur de Washington. Et là-bas, c'était un autre groupe de manifestants qu'on trouve là-bas, des supporters de Donald Trump. Plusieurs dizaines qui étaient là avec les signes genre America First et qui ne sont pas contents de la défaite du président sortant et qui ont des pancartes aussi qui prônent le recomptage des voix. Donc ici, les gens se sentent un peu libérés pour ceux qui sont supporters de Joe Biden et d'un côté, les supporters de Donald Trump qui se disent qu'il faut encore compter les voix pour que tout soit rétabli.
Merci Bagassi Koura dans cette édition spéciale sur VOA Afrique. Nous allons en Californie retrouver un fidèle parmi les fidèles à Bakersfield, Dennis Biller, qui lui, en fait, avait voté Donald Trump. Dennis, bonsoir ou bonjour, je ne sais pas quelle heure il fait en Californie. Alors, votre réaction par rapport à cette défaite annoncée de Donald Trump?
Oh là là, rien m'étonne hein, maintenant. C'était pas vraiment une surprise. Hein. Je crois que il y avait pas mal de gens qui en avaient marre. Moi, je trouvais que Trump était vraiment très bien pour l'économie. Il a fait vraiment de bonnes choses sur le plan international. Alors, c'est quelqu'un, comme tu sais, difficile à prévoir, prédire ce qu'il va faire, ce qu'il pense.
Merci Dennis Biver que nous avions depuis Bakersfield en Californie comme réaction. Et pour clore, nous avons aussi un autre républicain, Herman Cohen, qui était l'ancien secrétaire général adjoint aux affaires africaines.
Non, ça n'a pas surpris. Parce que je crois qu'à cause de la pandémie et le mauvais résultat que nous avons eu aux États-Unis, c'est-à-dire le plus grand nombre de cas de pandémie dans le monde, le plus grand nombre de morts, les gens ont mis la responsabilité sur la tête du président Trump. Donc, c'est pas une surprise qu'il a été. On a voté contre lui.
Mais Trump, quand même, c'est pas lui qui a amené cette pandémie.
C'est vrai, mais c'est la gestion de la pandémie. Il a caché les nouvelles pendant plusieurs semaines. Il n'a pas donné un exemple pour porter les masques. Et même la Maison Blanche est devenue un grand centre d'infection. Donc, en général, les gens n'étaient pas contents.
Mais gagner l'élection, c'est une chose. Biden aussi devra faire face à de nombreux défis, non?
Oh, bien sûr, d'abord, il y a toujours la pandémie qui existe. Et je crois qu'hier, il y avait le plus grand nombre de cas enregistrés dans une journée dans l'histoire de cette pandémie. Donc, il doit commencer avec ça. Deuxièmement, il y a la grande crise économique. Et je suis content qu'il a dit qu'il va augmenter le salaire minimum à 15 $ l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui travaillent, mais ils ne gagnent pas assez. Et c'est une crise de capitalisme, à mon avis. Il faut qu'ils changent. Au lieu de donner tous les bénéfices aux actionnaires, il faut partager avec les ouvriers un peu plus.
Et pourtant, Donald Trump avait très bien fait sur le plan économique, non?
Il a commencé bien, mais écoutez, quand il est arrivé, il a eu une bonne économie à cause d'Obama, qui était avant lui. Mais il a bien amélioré l'économie. Le chômage a beaucoup baissé sous Trump, et je crois beaucoup de gens disent qu'il a du mérite pour la gestion économique.
Mais quand même, Biden va hériter d'un pays extrêmement divisé, extrêmement polarisé. Vous pensez qu'il arrivera à réunifier les Américains?
Écoutez, Biden est un politicien qui est là depuis 50 ans. Il est devenu sénateur à l'âge de 29 ans. C'est un homme très gentil, il comprend les gens. Et Trump est quelqu'un qui n'a pas les mêmes mérites pour relations avec les gens. Et je crois qu'il va travailler avec les républicains et il va passer beaucoup de lois. Et aussi, il va augmenter le rôle des femmes. Vous voyez, le nouvelle vice-présidente est une femme. Non, je crois que Biden va réunir le pays au lieu de diviser le pays.
Mais le grand gagnant, c'est la démocratie américaine, non?
Oui, c'était une menace, mais non, je crois que ce qui s'est passé cette année, ça vous donne, ça dit que la démocratie américaine marche, ça marche bien. Les gens ont voté et ils ont accepté le résultat. Qu'est-ce qu'on peut demander plus?
Merci, Abraham Cohen. Édition spéciale sur la voix de l'Amérique avec Idriss Fall. De l'autre côté de la vitre, Georges Léonard Sagnon et Timothée Donangmaï. Merci d'avoir été à notre compagnie. Et